Bonjour, chers amis auditeurs. Les saints de la semaine commencent par le lundi 11 janvier, Saint Paulin d'Aquilée. Saint Paulin d'Aquilée était évêque d'Aquilée, il est mort en 804. On ignore s'il était d'origine allemande ou italienne. Il passa pour être l'un des hommes les plus savants de son époque, écrivant aussi bien en prose qu'en vers. Alcuin le considérait comme son maître, et l'empereur Charlemagne l'appela à sa cour pour en faire l'un de ses conseillers en matière religieuse. C'est lui qui le fit nommer évêque d'Aquilée dans le Frioul italien. Selon ses contemporains, il fut la lumière de la chrétienté, sans pour autant négliger le soin de son propre diocèse. Il fut l'un des grands défenseurs du filioque, ajouté dans le texte latin du concile de Nicée. Il évangélisa les Avars et les Slovènes. Il est l'auteur de « Ubi caritas et amor, Deus ibi est », « Où sont amour et charité, Dieu est présent ». À Frioul, donc aux confins de la Vénétie, en 802, Saint Paulin est évêque d'Aquilée et il entreprit de convertir à la foi les Avars et les Slovènes et adressa à Charlemagne un poème remarquable sur la règle de la foi. Il dit « Le Verbe du Très-Saint-Père, tout-puissant, est absolument parfait, se répand en toutes choses. Il déploie partout sa puissance, il éclaire toutes choses, visibles et invisibles. Il les contient en lui et les rassemble en lui. Il n'en laisse aucune en dehors de sa puissance, mais il donne vie et protection à toutes choses, en tout lieu, à chacune en particulier et à toutes ensemble. Nous fêtons donc les Saint Paulin, bonne fête, mais également les Paulines, dont nous n'avons pas beaucoup d'informations, donc très bonne fête aux Paulins et aux Paulines, le 12 janvier. C'est la Sainte Tatiana de Rome qui fut martyre, morte en 226. Tatiana ou Tatienne. Fille d'un consul romain, elle est dénoncée comme chrétienne et elle fut condamnée à être suspendue à une potence. Le corps labouré est mis à nu avec des peignes de fer. Les bourreaux l'outragèrent en lui tondant la chevelure et finalement elle fut décapitée. Bonne fête aux Tatiana, mais également bonne fête aux Marguerites. Alors ce jour-là, le 12 janvier, sont fêtées également les Saintes Marguerites. Alors c'est Sainte Marguerite Bourgeois, fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame. Elle est morte vers 1700. Née à Troyes, le 17 avril 1620, Marguerite est la sixième d'une famille de 12 enfants. Elle a 19 ans à la mort de sa mère. Un an plus tard, elle est touchée par la grâce lors d'une procession en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire et s'inscrit tout naturellement à la congrégation externe de Troyes. En 1642, elle apprend la fondation de Ville-Marie à Montréal au Canada et ressent le désir d'une vie missionnaire quelques années plus tard. La Vierge elle-même lui apparaît et lui dit « Va, je ne t'abandonnerai pas ». Elle part alors pour Montréal en 1653 et devient dès lors l'âme de la colonie. Elle commence par construire une chapelle dédiée à Notre-Dame du Bon Secours, puis elle ouvre la première école. Par la suite, elle fondera une congrégation externe pour parfaire l'éducation religieuse des femmes et jeunes filles. Peu à peu, naît un système scolaire et d'action sociale qui s'étend à tout le pays. Ses œuvres lui vaudront le titre de cofondatrice de l'Église du Canada. Après être allée chercher réconfort et du renfort en France, la congrégation Notre-Dame reçoit l'approbation de ses constitutions religieuses en 1698. La fondation achevée, Sainte Marguerite meurt le 12 janvier 1700, laissant 40 religieuses pour poursuivre son œuvre. Actuellement, la congrégation Notre-Dame compte plus de 2600 sœurs. Marguerite Bourgeois a été béatifiée en 1950 par Pie XII et canonisée en 1982 par Jean-Paul II. Donc c'est à Montréal, au Québec, en 1700, que Sainte Marguerite Bourgeois, vierge, aida de toute manière les colons et les soldats et prit grand soin de l'éducation chrétienne des jeunes filles pour lesquelles elle fonda la congrégation des sœurs Notre-Dame. Lors de la béatification par Pie XII en 1950, voilà ce qu'il dit. Sans s'arrêter à la couleur de la peau ni aux origines raciales et sociales des petits Indiens, elle leur vouait le même amour qu'aux enfants des colons. Plus tard, Marguerite comptera des filles d'Iroquois parmi ses religieuses. Bonne fête donc aux Tatiana, bien sûr, mais également au Canada, bonne fête aux Marguerites, mais également aux Césarie, Pierre-François. 13 janvier, Sainte Yvette. Alors, Sainte Yvette est recluse à Huy. C'est Sainte Yvette avec un I ou Sainte Jute, J-U-D-T-E. Elle mourut en 1228. Née à Huy, dans la principauté de Liège, actuellement province de Liège, en 1158, elle est vénérée dans toute cette région. Mariée à 13 ans, mère de 3 enfants, dont un mort en bas âge, veuve à 18 ans, elle vécut 30 ans recluse dans une cellule accordée à l'église de Huy en Belgique, priant Dieu et soignant les lépreux. Mais ce jour-là, le 13 janvier, sont également fêtés les Saint-Hilaire de Poitiers. Saint-Hilaire était évêque de Poitiers et docteur de l'Église. Il mourut en 367. Né dans une noble et riche famille païenne d'Aquitaine, ce jeune homme était doué pour les études, mais la question du sens de la vie le tourmentait. Où se trouve le bonheur pour l'homme ? À quoi sert d'exister si l'on doit mourir? Y a-t-il un Dieu? Déçu dans ses lectures, il découvre un jour ce passage de la Bible. Je suis celui qui est. Et alors, il s'enthousiasme. Mais la mort reste une idée insupportable. Il trouvera le plein rassasiement de sa faim spirituelle dans l'Évangile de Saint Jean, l'évangile de l'incarnation et de la résurrection. À 30 ans, il demande le baptême. Son envergure le désigne à l'attention des fidèles. Il est élu évêque de Poitiers, rencontre Saint Athanase d'Alexandrie, alors en exil en Gaule, à cause de l'hérésie arienne. Combattant à son tour cette hérésie, il est exilé en Phrygie et découvre la théologie grecque. De retour en Gaule, il fera triompher à la fois l'orthodoxie et la paix religieuse, et en accueillant Saint-Martin pour fonder le monastère de Ligugé, il favorisa l'instauration du monachisme en Gaule. Dans son magistral traité sur la Trinité, il a le premier fait entrer dans la langue latine les subtilités et les délicatesses de la langue grecque. De tous les pères latins, il est celui dont la pensée est le plus proche des pères grecs. Hilaire fut donc, au milieu du IVe siècle, le premier évêque de Poitiers, connu avec certitude, et l'un des grands auteurs chrétiens. Exilé pour avoir défendu la foi trinitaire dans une Gaule acquise à l'arianisme, il rédige son ouvrage le plus connu, le De Trinitate, et revient d'Orient pour finir ses jours à Poitiers en 367 ou 368. Et en janvier 2015, il y a eu l'ouverture des festivités autour de Saint-Hilaire, né il y a 1700 ans alors, un des premiers évêques de Poitiers. Dans le traité de la Trinité, Saint-Hilaire dit ceci. Je t'en prie, conserve intacte la ferveur de ma foi et jusqu'à mon dernier souffle, donne-moi de conformer ma voix à ma conviction profonde. Oui, que je garde toujours ce que j'ai affirmé dans le symbole proclamé lors de ma nouvelle naissance, lorsque j'ai été baptisé dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc très bonne fête au Saint-Yvette et au Saint-Hilaire. Jeudi 14 janvier, Sainte Nino, Nina, Ninon, Christine ou chrétienne même. Sainte Nino est vénérée en Géorgie au IVe siècle. Alors en effet, les églises d'Orient la fêtent le 14 janvier. L'église en Occident en fait mémoire également ce jour et aussi le 15 décembre. Nous connaissons sa vie par l'écrivain ecclésiastique Ruffin qui donna quelques détails sur la conversion de Libérie, région intérieure de l'actuelle Géorgie. Une jeune captive chrétienne, dont on ignore le pays d'origine, devenue esclave à la cour royale de Msketa, non loin de Tbilissi, garde toute sa foi auprès du roi Myrian. Plus que sa beauté, c'est son inlassable charité qui l'a fait aimer et respecter. Ayant obtenu par ses prières la guérison d'un enfant, elle est appelée auprès de la reine Nana qui se meurt. Elle lui rend la santé. Quand le roi veut la récompenser, elle lui dit préférer sa conversion. Le roi en laisse d'abord le soin à sa femme. À quelque temps de là, il demandera à l'archevêque de Constantinople de lui envoyer un évêque pour évangéliser le royaume. Sainte Nino se retire alors dans la région de Bobdé, où, dès le IVe siècle, fut construite une cathédrale. À Msketa, un petit oratoire rappelle aujourd'hui d'ailleurs encore ce baptême de la Géorgie. Donc, très bonne fête aux Nina. Ninon. 15 janvier, Saint Rémy, évêque de Reims, mort en 530. Au propre de France, Rémy est fêté le 15 janvier, dies natalis. Au propre du diocèse de Reims, il est fêté le 1er octobre, jour de la translation des reliques, pour y être vénéré par les Rémois à l'emplacement où s'élèvera l'actuelle basilique. Issu d'une grande famille gallo-romaine de la région de Laon, il avait pour mère Sainte Céline. À 22 ans, il est choisi comme évêque de Reims et son activité missionnaire s'étend jusqu'à la Belgique. Il fonde alors les diocèses de Thérouanne, Laon et Arras, crée tout un réseau d'assistance pour les pauvres et joue un rôle de médiateur auprès des barbares. Quand le chef franc Clovis prend le pouvoir, Saint Rémy lui envoie un message. Soulage tes concitoyens, secours les affligés, protège les veuves, nourris les orphelins. La reine Sainte Clotilde, tout naturellement, se tournera vers Saint-Rémy et vers un autre évêque contemporain, Saint-Vast, pour acheminer le roi vers la foi. Après le baptême de Reims, Saint-Rémy restera jusqu'à sa mort l'un des conseillers écoutés du roi et sera l'un des artisans en Gaule du retour à la vérité catholique des Burgondes après la bataille de Dijon et des Wisigoths à Vouillé, deux populations contaminées par l'arianisme. À Reims donc, vers 530, la naissance au ciel de Saint-Rémy, évêque, qui a, après avoir lavé le roi Clovis dans la fontaine baptismale et l'avoir initié au sacrement de la foi, convertit au Christ le peuple franc. Il quitta cette vie, célèbre par sa sainteté, après plus de 60 ans d'épiscopat. En France, donc, sa mémoire est célébrée le 15, jour de sa mise au tombeau. Voici un extrait de la lettre de Saint-Rémy au roi Clovis en 482. Secourez les malheureux, protégez les veuves, nourrissez les orphelins. Que votre tribunal reste ouvert à tous et que personne n'en sorte triste. Toutes les richesses de vos ancêtres, vous les emploierez à la libération des captifs et au rachat des esclaves. Admis en votre palais, que nul ne s'y sente étranger. Plaisantez avec les jeunes, délibérez avec les vieillards. Donc nous souhaitons très bonne fête aux Rémy, aux Amalric également, aux Amaury, aux Éphysio, aux Amaury avec un Y à la fin, aux Rachel, Rachild. Le 16 janvier. Alors le 16 janvier, nous avons donc la Saint-Marcel, Saint-Marcel Ier, qui fut pape de 308 à 309 et martyr. Il mourut en 309. Il se consacra à la réorganisation de son église, ravagée par la persécution de Dioclétien. Certaines mesures de pardon prises à l'égard des chrétiens trop faibles qui avait apostasié, lui valurent l'animosité de quelques chrétiens qui le dénoncèrent à l'empereur. Il fut condamné à être esclave, chargé d'entretenir des écuries dans sa propre église. Ce pape est célèbre par les vers que lui consacra Saint Damase. Donc à Rome, au cimetière de Priscille, sur la voie salarienne, nouvelle, en 309, il y eut la mise au tombeau de Saint Marcel Ier, pape. Comme le rapporte le pape Saint Damase, il fut un véritable pasteur, mais maltraité de façon mordante par ceux qui avaient failli dans la persécution et qui ne voulaient pas se soumettre à la pénitence établie, dénoncée également par eux honteusement au tyran Maxence. Il fut chassé de la ville et mourut en exil. Mais également le 16 janvier sont fêtés les Honorats. Saint Honorat était abbé de Lérins et évêque d'Arles. Il mourut en 430. Originaire d'une noble famille gallo-romaine, Honorat et son frère Venance reçurent le baptême dès leur jeunesse. Saisis par le désir de perfection, ils cherchèrent à gagner l'Orient, patrie des moines. Ils s'embarquèrent alors pour la Grèce avec un troisième compagnon, épris lui aussi de vie monastique. En Grèce, Venance tombe malade et meurt. Honorat regagne l'Occident avec son compagnon. Mais l'appel de la solitude ne les a pas fait se quitter. L'évêque de Fréjus, Léonce, leur fait don d'une île de l'archipel de Lérins au large de Cannes, alors déserte. Les deux solitaires enchassent démons et serpents et grâce aux disciples venus de continents, l'île se peuple de moines, organisée en une communauté cénobitique, fort souple, sous la direction d'Honora. Ce monastère deviendra l'un des grands centres spirituels de la région. Actuellement, le monastère est encore habité par des moines cisterciens. La règle de Saint Honora, qui insiste sur la stabilité du moine, servira de modèle et d'autres et fera l'admiration de Saint Cassien, de Jean Cassien. En 426, Saint Honora quitte son île pour devenir évêque d'Arles. Dans ce diocèse, déchiré par les divisions, il rétablit la concorde et rend à l'église d'Arles rigueur, vigueur et sainteté. C'est au début du 5e siècle que Saint Honora trouve en se fixant à Lérina le désert qu'il désirait et va rapidement devenir l'un des centres les plus rayonnants du monachisme occidental à ses débuts. Saint Honora dit à ses moines « Vivez de telle sorte que la fin de la vie, on l'appelle la mort, ne nous effraie pas. Le trépas serait-il une peine lorsqu'il ne conduit pas au supplice de l'enfer ?» Très bonne fête donc aux Marcel, Bérard, Othon. Et nous arrivons au dimanche 17 janvier pour Saint-Antoine le Grand, ermite en Égypte, mort en 356. C'était un jeune homme riche, propriétaire terrien en Haute-Égypte. Mais la question de son salut le tourmentait. Préoccupé par ce qu'il avait lu dans les Actes des Apôtres qui décrivent la première communauté chrétienne où tout était en commun. Il entre dans une église et c'est là qu'il entend l'évangile du jeune homme riche. Il est saisi par la coïncidence. Ce texte s'adresse à lui, pense-t-il, et aujourd'hui même. Il distribue donc sa fortune aux plus pauvres et se retire quelque temps après dans le désert de Nitrie, habitant un fort militaire abandonné. Là, pendant plus de 20 ans, il subira les attaques du démon qui pend l'apparence de bête féroce ou sensuelle. Ce sont les célèbres tentations de Saint Antoine. Ses disciples viennent le rejoindre et pour eux, il organise une vie monastique en même temps qu'érémitique. C'est pourquoi il est considéré comme le père des moines. Attentif à la vie contemporaine de l'Église, il se rend à Alexandrie pour soutenir les controverses contre les païens et les hérétiques ariens. Le père des moines s'éteint à 105 ans. Plus que les faits merveilleux de sa vie, retenons ses paroles et les enseignements qu'il donnait à ses disciples. Efforçons-nous, leur disait-il, de ne rien posséder en ce que nous emporterons avec nous dans le tombeau, c'est-à-dire la charité, la douceur et la justice. Les épreuves nous sont en fait profitables. Supprimez la tentation et personne ne sera sauvé. Saint Antoine jouit très rapidement d'une grande popularité et devint le protecteur de nombreuses confréries et métiers. Certainement que son caractère de lutteur victorieux, dans la vie spirituelle bien sûr, d'ascète qui vit de manière frustre et dépouillée dans la solitude, d'homme qui a changé de vie pour une vie nouvelle au service de Dieu, a de quoi largement toucher le légionnaire. Après la mort de ses parents, accueillant les préceptes de l'Évangile, il distribuera tous ses biens aux pauvres et se retira dans la solitude à la Thébaïde en Égypte, où il commença à mener une vie d'ascète. Il travailla avec zèle à fortifier l'Église en soutenant les confesseurs de la foi lors de la persécution de Dioclétien et en aidant Saint Athanase contre les Ariens. Il eut tellement de disciples qu'il est appelé père des moines. Il mourut en 356. Dans la vie des pères du désert, il dit « Ne cédons pas à la tristesse comme si nous périssions. Confiance et joie, nous sommes sauvés. » Très bonne fête semaine à tous et à la semaine prochaine pour de nouveaux saints dans les saints de la semaine. Au revoir.